journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le JDA, nous attendons vos commentaires sur la stratégie de l'opposition au Cameroun. Alors que 79 élèves ont été enlevés hier à Bamenda, le président Paul Biya a prêté serment ce matin à Yaoundé pour un 7e mandat. Mais Maurice Kamto, arrivé 2e selon les résultats officiels, continue de revendiquer sa victoire. Il a même demandé samedi le recomptage des voix par la communauté internationale. Alors que pensez-vous de cette stratégie ? Maurice Kamto sera-t-il rejoint par d'autres candidats malheureux dans cette demande ? Et que pensez-vous aussi de cette brigade des anti-sardinards, ces activistes qui menacent les artistes ayant soutenu Paul Biya ? Pour en parler et répondre à toutes ces questions, nous serons en ligne dans quelques instants avec Louis Kemayou, journaliste, président du Club de l'Information Africaine. Pour intervenir, vous exprimer sur ces sujets, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Avant cela, on se tourne vers le répondeur pour écouter quelques-uns des nombreux messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour, chère Madame Stéphanie Hartmann et tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Donc aujourd'hui, je vais parler à propos de ce qui se passe en Angola. Donc on sait, c'est le commencement, il va commencer aujourd'hui l'opération qui s'appelle en portugais Opération Resgate. Donc ça veut dire le gouvernement, il va appliquer la politique de tolérance zéro pour l'immigration. Tout ce qui se contre en Angola, qui sont des immigrés, donc illégalement au pays, seront expulsés. Et moi je vais redire, moi étant qu'un Angolais, étant qu'un Africain, je suis totalement contre cette politique du gouvernement angolais. Parce que la solution d'emploi, la solution d'électricité, la solution des pollutions en Afrique, ça ne va pas se retrouver ou bien en Angola, ça ne va pas se trouver quand ils vont... Ce n'est pas pour ça des immigrés qui vont trouver la solution d'emploi et même de la pollution ou même d'électricité. Parce que ça, ce sont les problèmes que nous avons au pays. Donc, il faut savoir que c'est la politique du gouvernement qui est anti-immigration. Mais nous, les peuples angolais, nous sommes totalement contre cette politique. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Angola. À bientôt. C'est Kanda. Au revoir.
Bonjour, JDA. Je voulais passer en direct, mais bon, je pense que j'ai pas pu. On m'a pas pu me prendre pour le temps. En fait, j'aimerais intervenir sur le Franc CFA, les débats concernant le Franc CFA. Au fait, c'est très simple, hein. J'ai écouté hier les uns et les autres les arguments. Il y a un qui disait que oui, les autres n'ont pas le franc CFA, mais bon, ils ne sont pas développés. Cher ami, sache que c'est une question d'indépendance. Quand on parle d'indépendance, c'est important. C'est une question d'indépendance. On ne peut pas, à cette allure, être, je vais dire... se voit imposer une monnaie depuis des siècles et qui nous maintient en esclavage. Ça, c'est impossible. Voilà, quand nous avons des poupées gonflables dans nos pays respectifs appelés présidents, il nous faut une monnaie à nous. Voilà, les autres pays, il y a d'autres pays ont leur monnaie, ils ne sont pas morts, même si on a une monnaie qui ne décolle pas, mais c'est une monnaie à nous. Il nous faut une monnaie à nous.
Amis auditeurs, bonjour. Abdourahmane Sangaré est mort. J'ai dit paix à son âme. Mais j'ai un conseil à donner aux dirigeants du Front populaire ivoirien. En tant qu'Africain, dans nos us et coutumes, la mort est sacrée. Je me souviens que la dépouille de la mère du président Ouattara a été déterrée et traînée à des centaines de mètres dans les rues d'Abidjan, comme un vulgaire bandit dans un film de western. Mais cela a des conséquences. Et moi, je demande aux dirigeants du Front populaire ivoirien de demander pardon au peuple ivoirien et en particulier au président de la République, Alassane Ouattara. Parce qu'en tant qu'Africain, il y a des actes qu'on pose et qui ont des conséquences dans nos vies. Idriss, bonne journée.
Oui, alors bonjour, Africa numéro 1. Encore une fois, Stéphanie, je suis déçu de... l'Afrique. Encore une fois, je suis en colère. Je suis vraiment en colère de l'Africain.
Mais comment ça veut dire qu'on peut aller prendre même pas 10 personnes, 1 personne, 20 personnes, 30, 80 personnes au Nigeria, au Cameroun, partout en Afrique, on ne sait pas où ils sont ces gens-là, mais c'est une foutaise. Mais ce n'est pas possible. Donc cela veut dire que le gouvernement qui nous gouverne, il ne peut pas nous sécuriser. On n'est pas sécurisé. On peut nous prendre comme ils veulent. Il n'y a pas de sécurité, mais ce n'est pas possible. En Europe, ici, on va prendre une seule personne. Mais je te dis que dans une journée, ils vont voir où c'est parti une seule personne. Mais en Afrique, 80 personnes, on ne sait pas il est où. Non, mais c'est une foutaise. Franchement, vraiment, c'est une foutaise. Moi, franchement, je n'arrive pas, ça m'a fait, je suis malade là. Je suis malade, Stéphanie. Non, c'est franchement, je suis vraiment dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Excusez-moi parce que je me suis énervé, mais les Africains, il faut qu'on puisse voir vraiment les solutions parce que là, c'est terrible. Merci en tout cas pour l'Africa numéro 1 et pour tous les Africains. Merci.
Oui, bonjour, ami du GIA. Bonjour, mes chers frères africains. J'appelle ce matin, c'est à propos du président camerounais qui va prêter segment ce matin. Je me pose la question. Lorsque le Cameroun ne va pas bien, en zone anglophone, on voit comment on tue les gens. On tue les mamans, on tue les enfants. On enlève toute une salle de l'école. On enlève tous les enfants de 14 à 13 ans, 15 ans. On va le mettre dans un endroit qu'on ne sait même pas. Lorsque le pays ne va pas bien, on se dit qu'on a bien les élections. C'est bien beau. On a gagné avec 71, quelque chose pour cent. C'est bien beau. Mais lorsqu'on gagne une élection, franchement, mais c'est la joie partout dans le Cameroun. Mais vous rendez compte, j'ai gagné avec 71%. Ça veut dire que s'il y avait 6 millions de Camerounais, ça veut dire qu'au moins 4 millions sont en fait. Mais aujourd'hui, le Cameroun est un pays de 27 millions d'habitants. À peu près 27 millions. Mais si on vous dit que 3 millions de personnes, même pas 3 millions ont voté, 2 500 000 ont voté. Mais franchement, où sont les autres?
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la stratégie de l'opposition au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun, un pays sous tension après l'enlèvement hier de 79 élèves. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Louis Kemayou. Louis Kemayou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Louis. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine. Avant de parler justement de cette stratégie de l'opposition et de comment cette élection présidentielle a rebâti les cartes du jeu politique camerounais, un mot quand même, je le disais déjà en introduction, sur cet enlèvement massif à Bamenda. On parle de 79 élèves kidnappés, 82 personnes en tout. Est-ce que ça vous inquiète, Louis? Et est-ce que on a l'impression que les séparatistes anglophones sont en train d'appliquer finalement les mêmes méthodes que Boko Haram?
Sauf que dans ce cas de figure, les séparatistes disent que ce n'est pas eux qui ont procédé à l'enlèvement. Donc pour l'instant, on ne sait pas précisément qui est derrière cet enlèvement. L'inquiétude que l'on a, c'est que l'armée camerounaise jusqu'à présent semblait plutôt bien contrôler la situation dans l'extrême nord, parlant de Boko Haram, puisqu'elle ne s'est pas effondrée, comme on l'a vu dans d'autres pays, dans le Sahel. Dans la partie anglophone, c'est une crise plus interne qu'une véritable guerre, mais qui a été militarisée. Et donc, du coup, on a l'impression que malgré cette forte militarisation du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'armée et la police ne contrôlent pas complètement la situation. Et c'est ça qui est inquiétant à la rigueur, qu'on ait un enlèvement de ce type-là et que 48 heures après, on ne sache pas précisément qui a procédé aux enlèvements, où sont les personnes enlevées, quelles sont leurs réservées. J'espère qu'après l'investiture, les forces de défense et de sécurité trouveront le temps pour enquêter et retrouver surtout les personnes qui ont été enlevées parce que l'inquiétude commence à monter.
Et effectivement, selon le porte-parole des Tanzanian Defense Forces, les ADF, ces ADF accusent pour leur part les forces de Paul Biya d'être responsables de cet acte. À suivre donc. Alors, on revient un peu sur cette situation post-électorale au Cameroun. Le président Paul Biya a prêté serment ce matin. Est-ce qu'on peut dire d'abord, Louis, avant de donner la parole aux auditeurs, que cette élection, quand même, n'était pas comme les autres, même si le résultat a été celui qu'on attendait?
Oui, il n'y a pas eu de surprise du côté du résultat, parce que, pour dire la vérité, c'est la cinquième fois depuis la restauration du multipartisme au Cameroun que Paul Biya se présente devant les Camerounais pour une élection. Il n'y a pas de variation. Depuis ce retour au multipartisme, l'élection de 1992 avait été très, très disputée. L'opposition avait pu présenter un seul candidat qui a gagné. La population est descendue dans la rue pour revendiquer sa victoire. Cela a duré 9 mois. Et puis, il y a eu une espèce de rencontre, une tripartite qui a permis de faire une constitution dans laquelle il y avait une limitation de mandat. Puis, en 2008, cette limitation, le verrou de la limitation de mandat a été levé. Ce qui a permis à Paul Biya de se présenter de façon quasi continue jusqu'à présent. Mais à la différence de 92, on a aujourd'hui ce mouvement des anti-sardinaires qui a été lancé pour attaquer les artistes qui ont soutenu le président Biya le 6 octobre, juste avant, au moment de la clôture du meeting. Et ce mouvement, il prend de l'ampleur non seulement au Cameroun, mais également à l'étranger, puisque c'est de l'étranger que ça a été lancé. Et je pense que c'est cette tendance-là qu'il faudra suivre, parce que ça devient très brutal. On a vu le concert de Katino à Nice, qui a été très, très chahuté. Il y a des concerts qui ont été annulés depuis. Et donc, depuis, on se demande ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il faudra surveiller cela avec beaucoup d'intensité, parce que c'est la première fois qu'on a un mouvement de ce type-là au Cameroun, avec des artistes qui sont interdits de spectacle.
À suivre donc. Merci Louis pour ces mots introductifs. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs et on va écouter Jules qui s'est inscrit en laissant son numéro sur le répondeur. Bonjour Jules, est-ce que vous pouvez couper votre radio s'il vous plaît?
Oui, j'ai déjà coupé madame.
Bonjour Jules, bienvenue dans le JDA. Alors quel regard vous portez sur cette situation post-électorale au Cameroun? On parlait dans cette émission de la stratégie de l'opposition, puisque Maurice Kamto avait invité la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Il veut recompter les voix, mais il y a eu quand même cet enlèvement aussi hier qui inquiète un peu, et cette prestation de serment de Paul Biya aujourd'hui. Est-ce que cette élection a rebattu un peu les cartes du jeu politique camerounais?
Oui, je dirais d'entrée du jeu que je suis de tout cœur et suis payé pour la partie anglophone du Cameroun où nos frères subissent tout ce qui se passe. Par rapport à la pré-élection, il faut qu'on essaie de respecter le verdict des unes. Donc, il faut le recomptage de voix. Il ne faut pas que les gens se cachent pour dire que l'opposition n'avait pas présenté un candidat uni. Non, c'est l'opposition qui a gagné les élections. Si l'opposition n'a pas gagné les élections, le professeur Maurice Kamto demande qu'on recompte bureau de vote par bureau de vote. Voilà qu'on compare les PV. On voit qui a effectivement gagné. C'est là où se trouve le débat. Il ne faut pas que les gens disent que le RDPC est trop implanté, l'opposition n'a pas présenté un candidat uni. Non, les résultats sont là et il faut qu'on donne exactement les résultats. Donc, c'est tout ce que nous on demande.
Alors, je vais juste reciter les propos de Maurice Kamto. Donc, dans une vidéo, il a invité la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour que la volonté du peuple camerounais souverain, je cite, soit restituée conformément à la volonté des urnes. Et il propose donc la création d'une commission internationale indépendante acceptée par les partis qui sera chargée du recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Selon Cabral Libye, autre candidat malheureux, l'idée de recomptage des voix suggérée par le candidat Kamto est en effet digne d'intérêt. Donc vous êtes d'accord avec cette demande, Jules? Pensez-vous qu'il sera rejoint par d'autres candidats? Et pensez-vous que cette demande puisse aboutir? On a vu ça sous d'autres cieux, il me semble.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le professeur, parce que nous, en fait, moi personnellement, je demande qu'il faut revendiquer la victoire, mais d'une manière pacifique. Et la voie que le procès est tenté d'emprunter, c'est une voie pacifique. Maintenant, poser la question si les autres candidats vont rejoindre la proposition du professeur Maurice Kamto, je ne sais pas. Parce que chacun fait sa politique. Certains se disent peut-être, on ne sait pas s'ils sont vraiment de l'opposition, s'ils sont avec le peuple ou s'ils sont avec le parti au pouvoir. Bon, chacun prend ses responsabilités devant l'histoire. Voilà. Donc, pour le moment, je suis à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes tentés de faire une manifestation, mais d'une manière pacifique. C'est tout ce que je demande.
Vous êtes combien devant l'ambassade du Cameroun, Jules? Vous êtes nombreux quand même ou vous n'êtes pas nombreux?
Non, nous sommes à peu près moins de 100. Voilà.
Donc, pas mal déjà.
On est quelque part, puisque l'ambassade est fermée. Voilà, donc on n'est pas plus de 100 personnes.
Donc vous vous dites, il faut que l'opposition revendique et continue de manifester. D'ailleurs, des militants de Maurice Kamto ont été interpellés il y a quelques jours, dimanche, je crois, à Bafoussam.
Oui, malheureusement, au Cameroun, les gens ne peuvent pas manifester d'une manière pacifique. Alors que la manifestation est inscrite dans la constitution du Cameroun. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas manifester. Bon, ici en France, nous on a cette opportunité, on essaie de manifester, on laisse notre temps de travail pour aller manifester, pour aller revendiquer la victoire d'une manière pacifique. Voilà, donc voilà.
C'est très clair.
Ça, c'est ma position.
Merci, bienvenue, merci Jules. Jules, qui finalement valide, si j'ai bien compris, Jules, la stratégie de Maurice Kamto, qui est de revendiquer pacifiquement, insister, Jules, la victoire. Merci. Jules, je demande à Isaac de patienter un peu. Isaac nous reviendra sur ses anti-sardinards. On va prendre Olivier avant cela. Olivier, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour Olivier.
Olivier Ngwanza, président de l'association Grand Lac Banalemba et président de tous les ressortissants de la RDC de la ville de Brunois dans le 91. Donc s'il faut intervenir par rapport à ces problèmes du Cameroun, je vais voir d'abord stratégie de l'opposition, ça va être un peu difficile parce qu'ils demandent des recomptages des voix. On en a vu ça avec la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. On a vu avec Jean Ping, ça n'a pas marché. Parce qu'ils présentaient toujours les voix du gagnant. Donc, les problèmes, c'était pas ça. Les problèmes, c'était déjà avant les élections. Parce que la CENI, c'est pour le pouvoir en place. Les conseils constitutionnels, c'est pour le pouvoir en place. C'est eux qui organisent les élections. Donc, la CENI n'était pas indépendante. Donc, ça va être difficile. Donc, toute l'Afrique, tous les dictateurs de l'Afrique, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller avec eux. Donc, Paul Biya, 7 mandats, c'est beaucoup. Je ne pense pas qu'il a été voté à l'unanimité. Et le problème des enlèvements des enfants, donc c'est encore un problème qu'on n'arrive pas à comprendre. On est fatigué. Comment les gens peuvent venir chercher, prendre 86 enfants, sortir avec, tranquillement, sans tambour ni trompette? Dans cette ville, il n'y a pas de policiers? Dans cette ville, il n'y a pas de police des frontières? Ils sont partis avec et où? Ils sont partis où? Donc les pouvoirs sont derrière ça. Parce qu'on ne peut pas arriver à comprendre, venir enlever 96. C'est un contingent. Donc il y a eu vraiment une panique. Et les policiers, ils n'ont pas pu arrêter ces déplacements des enfants. En tout cas, c'est un cri d'alarme auprès des autorités, des politiciens africains. Essayez de faire quelque chose pour développer ces continents. Essayer de réfléchir.
Merci.
Essayer de prendre conscience pour développer ces continents. Vous aurez toujours la part des gâteaux.
Merci beaucoup, Olivier, de votre intervention. On entendait, quand vous parliez sur la CENI au Cameroun qui n'était pas indépendante, vos craintes peut-être pour le processus électoral en RDC. On écoute Isaac et ensuite on viendra vers notre invité Louis Kemayou pour savoir ce qu'il pense justement de ce recomptage des voix. Isaac, bonjour.
Bonjour madame.
Vous vouliez parler donc de cette brigade anti-sardinard. Alors qui sont plutôt, sont-ils proches selon vous de Maurice Kamto? Est-ce que ce sont des partisans de Maurice Kamto, les anti-sardinards?
Bon, je peux dire pas l'affirmatif que oui, parce que nous sommes tous Camerounais madame, vous comprenez? Alors quand vous demandez à un vrai Camerounais si Maurice Kamto a gagné les élections, moi je vous dirais que c'est faux. D'ailleurs, il ne faudrait pas que les gens commencent à tribaliser le débat au Cameroun pour dire que oui, Maurice Kamto, si on regarde même son ethnie, il représente combien au Cameroun? Donc si l'opposition avait fait un candidat, on pouvait peut-être donner à l'opposition, sur le bénéfice du doute, que oui, effectivement, comme en 92, peut-être l'opposition a gagné. Mais Maurice Kamto seul ne pouvait pas gagner des élections au Cameroun. Donc il faut qu'on arrête toujours de mettre les Camerounais, de les mettre les uns contre les autres. Et puis chacun est libre de son opinion politique. Nous sommes tous Camerounais. Si je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu es de Maurice Kamto, ce n'est pas pour autant que nous devons nous déchirer. Donc aujourd'hui, vous avez des artistes qui ont de la peine à vivre avec les droits d'auteur au Cameroun, mais qui attendent peut-être faire un petit spectacle en Europe pour avoir un peu d'argent, parce qu'ils ont pris position pour un parti, on les interdit de faire les spectacles. Bon, pourquoi ne pas demander à Neymar ou bien à Ronaldinho de ne plus jouer au football parce qu'ils ont, soutenu le candidat de l'extrême droite. Donc les gens doivent comprendre que chacun doit avoir ses opinions, qu'on laisse. Mais il ne faut pas que les gens arrivent maintenant, ils commencent à amener la brutalité pour dire ci, pour dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Samuel Eto'o, par exemple, il a beaucoup fait pour le Cameroun. Moi aussi, je suis sportif. Nous, on fait beaucoup pour notre pays. Mais quand vous mettez, vous dites que lui, Samuel Eto'o, il est persona non grata. Mais vous êtes qui pour dire ça? Mais il faut voir ce que Samuel Eto'o a donné pour l'image du Cameroun. Donc, que les gens arrêtent de tribaliser le débat. Bon, maintenant, les résultats ont été donnés. Ça a été donné, mais que les gens acceptent. Maintenant, il faut que les Camerounais s'asseyent, qu'on essaie de voir maintenant. Le président, on peut concevoir que le président, dans sa politique, il n'a pas peut-être réussi sur toute la ligne. On est d'accord. Peut-être on est d'accord que demain il faut penser au changement, il faut penser à l'alternance, mais ce n'est pas de cette manière, en allant monter les Camerounais les uns contre les autres, qu'on pourrait arriver à quelque chose de probant. Moi je pense qu'il faudrait que les gens y réfléchissent. Mais moi je parle en tant que vrai Camerounais. Si un Camerounais qui est honnête, il sait que Maurice Kamto seul ne pouvait pas gagner l'élection au pays. Donc on arrête de tromper les gens et qu'on arrête de monter. Ce n'est pas dans la casse, en allant casser, en allant brutaliser les artistes. Chacun est libre de ses opinions.
On a bien compris, Isaac, hein, que vous n'étiez pas d'accord finalement avec cette stratégie de la brigade anti-sardinaire. Peut-être que Louis pourra nous expliquer dans quelques instants d'où vient cette appellation. Et Isaac, on a bien compris que pour vous aussi, il fallait tourner la page du contentieux électoral et qu'il n'y avait pas de contentieux d'ailleurs, vous nous avez dit. Merci beaucoup, Isaac, de votre participation. Louis, je reviens vers vous. Vous avez entendu nos différents auditeurs. Je voulais un peu avoir votre réaction, votre analyse sur cette demande donc de Maurice Kamto de recomptage des voix. Qu'en pensez-vous? Quelles sont ses chances d'aboutir?
Je crois que Maurice Kamto est dans une position très légaliste, malgré le fait qu'il ne reconnaisse pas la victoire de Paul Biya et qu'il estime qu'il a été le vainqueur de cette élection, comme le pense également Cabral Libi. Je crois qu'on est dans une stratégie assez légaliste, et c'est ça le plus important. Il a garanti qu'il ne voulait pas mettre le pays à feu et à sang, et je pense que ça vaut toutes les garanties de bonne foi et de respect de la loi. Quant à savoir ce que la connexion qu'il y a entre le mouvement des anti-sardinaires et Maurice Kamto, je voudrais juste rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas le souvenir de ces événements parce qu'ils n'étaient pas nés ou qu'ils ne suivaient pas l'actualité politique à cette période-là. En 1992, un chanteur camerounais du nom de Lapiro de Banga avait déjà subi quelque chose de similaire à ce que subissent aujourd'hui les chanteurs considérés comme les sardinaires. Juste une explication concernant les sardinaires, c'est que il y a eu ce meeting du 6 octobre 2018 à Yaoundé, auquel ont pris part des chanteurs qui se sont produits sur la scène en soutien au candidat Paul Biya. Et c'est par rapport à ça que une brigade a été montée pour leur dire qu'ils étaient des sardinards. Et les sardinards, ce sont toutes les personnes qui vont dans les meetings politiques pour avoir de quoi manger et boire, voire avoir un t-shirt, en échange du fait qu'ils viennent assister à un meeting politique. Donc, ce sont en gros des personnes très pauvres qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui profitent donc de ces occasions-là pour le faire.
C'est intéressant.
Oui, pardon.
Non, mais c'est intéressant cette explication, effectivement, Louis Camaillon. Et je crois savoir, c'est aussi, voilà, le mot sardine vient parce que des fois, on sert des sandwichs aux sardines durant ces meetings.
Oui, c'est ça. C'est que c'est du pain avec en sandwich, donc de la sardine qui est à l'intérieur. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément faire une connexion entre Maurice Kamto et eux. J'ai eu au téléphone hier la personne qui a lancé ce mouvement et qui est un Camerounais de la diaspora. C'est en fait, il est canadien d'origine camerounaise. C'est un DJ. Il s'appelle Tef Chaleur Mix, je pense. Et c'est lui qui a lancé le mouvement. Il n'a pas d'opinion politique, il n'a pas un lien avec les partis politiques. Il dit simplement que les chanteurs camerounais doivent s'engager par moment quand il y a un besoin de le ressentir. Sur la crise anglophone, on ne les a pas entendus, c'est le reproche qu'il fait. Sur le fait que leurs droits d'auteur ne soient pas reversés correctement, on ne les a pas beaucoup entendus. Sur le fait que la prise en charge des artistes, des fois, n'est pas toujours assuré et il faut organiser des cotisations pour prendre soin d'eux lorsqu'ils sont malades ou pour rapatrier leurs dépouilles lorsqu'ils meurent à l'étranger. Sur ces questions-là et sur de nombreuses autres, il reproche aux artistes de ne s'être pas engagés. Et il trouve
curieux que des artistes qui ne s'engagent pas socialement sur des causes qui concernent leur public trouvent le temps d'aller s'engager auprès d'un candidat qu'ils soutiennent parce qu'il est le candidat, le président sortant. Ça, ils le trouvaient curieux et c'est pour ça qu'ils veulent le leur faire payer.
On comprend bien.
Y a-t-il un lien avec le fait qu'ils aient voté pour Maurice Kamto ou pas? Difficile de le dénouer, mais ce qui est certain, c'est que ça vient quand même dans un contexte de tribalisme exacerbé où beaucoup de personnes estiment que Maurice Kamto, parce qu'il a des origines bamiléké, a un fief électoral qui est celui des bamiléké et tous ceux qui le soutiennent sont bamiléké. Donc ce climat de tribalisme-là fait que il y a nécessité aujourd'hui pour les artistes camerounais non seulement de réaffirmer leur soutien à l'unité nationale, mais aussi de marquer leur attachement à la paix. C'est ce que Lady Ponce et d'autres artistes ont lancé. Ils ont fait une chanson pour appeler à préserver à la fois l'unité nationale et la paix. Et je pense que ces deux initiatives-là montrent bien à quel point les tensions politiques sont vives sur le terrain et que le rôle des artistes, c'est peut-être d'avoir une opinion en tant que citoyen, mais également de contribuer, comme on dit, à l'apaisement des mœurs, parce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, c'est le moment de le démontrer aujourd'hui au Cameroun.
On avait vu ça d'ailleurs aussi, hein, ce mouvement contre les artistes ou d'autres cieux, notamment concernant les artistes de la RDC. Il nous reste quelques minutes. Il y a Dorine qui nous dit sur Facebook, on va écouter Gassissou dans quelques instants, mais il y a Dorine qui nous dit sur Facebook, Paul Biya a prêté serment il y a une heure, les routes ont été barrées, les populations mobilisées dès l'aurore pour des danse et l'acclamer le long de la route, du palais de l'unité jusqu'au palais des congrès. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, les carottes sont cuites pour l'opposition. Peut-être tirera-t-elle les leçons de ses erreurs, notamment de ne pas avoir formé une coalition derrière un seul candidat. Mais si elle se prépare dès maintenant, peut-être saura-t-elle mettre à profit cela dans les 7 prochaines années. On va se diriger vers Yagoua, je pense, dans l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Gassissou.
Bonjour, Madame Boisfroman.
Je ne me suis pas trompé, vous êtes bien Yagoua, c'est bien ça?
Oui, Yagoua, le département du Maradanais, à l'extrême nord du Cameroun.
Non, vous avez suivi à la télévision la prestation de serment du président Paul Biya?
Oui, justement, de bout en bout, puisque c'est la seule activité qui domine l'actualité au Cameroun.
Je comprends. Alors, que pensez-vous de la demande de Maurice Kamto de recompter les voix?
Je pense que ça, c'est une peine perdue. Puisque, comme je lui dis toujours, Maurice Kamto avait l'occasion de remporter l'élection s'il acceptait la demande de la société civile qui se battait pour que l'opposition puisse présenter une candidature unique. Le score réalisé par Maurice Kamto cette année, je pense que la dernière élection qu'on a vue, un parti d'opposition réaliser ce score, je pense, c'est peut-être 92. Depuis tout ce temps, on ne l'a jamais fait. Donc, le contexte politique social était à l'avantage de l'opposition. Mais les gens ont tout fait pour que l'opposition ne puisse pas s'unir. Moi, je pense qu'ils devaient faire profil bas et attendre prochainement. Je suis surpris de constater que la toile est vraiment inondée par les partisans de Maurice Kamto. Malgré le verdict des urnes, je suis convaincu que ce monsieur a un agenda caché. Malheureusement pour lui, l'opinion que la population camerounaise est assez mature pour ne pas vraiment succomber à ce genre de manœuvre. Vraiment convaincu. Parce que, quel que ça se passe, le conseil constitutionnel a prononcé déjà le verdict. La prestation de serment a eu lieu aujourd'hui. Mais avec tout ça, les uns et les autres ne se lassent pas de pouvoir vraiment balancer des messages tribales, haineux sur la toile. Donc, ce n'est que ça qui circule maintenant sur les réseaux sociaux. Si vraiment la population camerounaise n'était pas mature, je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne parlerait même plus du Cameroun. Le Cameroun devait être en lambeaux. Malheureusement, pour ce monsieur...
Il faut se méfier aussi, hein, Gassissou, et on le répète aussi souvent sur cette antenne, hein, de tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Il faut même aussi parfois s'en détacher. On arrive, à la fin de cette émission. Je vous remercie, hein, Gassissou, d'avoir participé. Gassissou qui disait, hein, faut quand même tourner la page. Et puis, il y a Serge Espoir en Matomba, hein, lui a invité Maurice Kamto, les autres leaders, à se joindre à lui afin de mutualiser leurs forces pour les réformes nécessaires devant aboutir à un code électoral consensuel en vue du prochain scrutin. Merci beaucoup, Louis Kemayou, d'avoir été notre invité pour ce JDA.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes journaliste et président du club de l'information africaine. C'est donc la fin de cette émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter @jauditeurs. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Je vous propose de parler de l'hommage aux tirailleurs africains. C'est actuellement du côté de France, de Reims en France. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le répondeur d'Africa numéro 1. En attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.